Bonjour à tous. Je voudrais, avant de commencer, vous apporter les salutations de l'église de Istres, puisque Francine et moi étions à Istres à leur demande pour partager deux jours de formation, d'intervention. Et donc, nous avons eu le plaisir de vivre un culte un samedi. C'est très très particulier pour nous. Le samedi, on est à l'église. La vie s'agite, puisque la ville est en ébullition avec les gens qui font leurs courses, etc. Et puis, le dimanche matin, on est allé se promener. Et moi, je disais, c'est la première fois que je me promène le dimanche matin en ayant un sentiment de culpabilité. Je me disais, c'est pas normal. Mais l'église de Istres est une jeune communauté avec des amis que nous y avons et qui, pour certains, ont fait une semaine de formation ici à Quévin, il y a à peu près 2 ans. Et un couple d'amis aussi avec lesquels nous avons des liens particuliers et qui ont le désir de cultiver ces liens entre nos deux églises. Nous prions souvent pour la ville de Istres, pour l'église de Istres. Et donc, c'était vraiment un grand plaisir d'être là-bas. Et exercice un peu particulier, le pasteur ou le responsable, en tout cas, de la communauté, m'avait dit, alors qu'on était parti sur une thématique pour ce week-end, m'a dit, écoute, on a choisi pour cette année 2023 un verset qui soit un petit peu notre mot d'ordre pour cette année. Est-ce que tu peux, en tout cas le samedi matin, apporter une prédication, un message sur ce verset? Et quand il m'a dit ça, je préparais mon intervention du week-end. Je me suis dit, oh, facile. En plus, dans ma mémoire, j'avais travaillé ce texte-là d'Ésaïe. Et je me dis, je reprendrai mes notes. Et puis, 15 jours avant, je suis allé dans mon ordinateur, j'ai cherché ma prédication, je me suis dit, j'ai dû prêcher ça il y a 7, 8 ans, tout. J'ai cherché, j'ai trouvé la prédication, et en me disant, chouette, ça y est, j'ai mes notes, j'ai plus qu'à retravailler tout ça. Et puis quand j'ai regardé, j'avais juste le verset. Tout ce qui était en dessous avait disparu. Donc, j'étais bien embêté. J'ai passé 2 heures à rechercher, impossible. Et en plus, ça remontait à 20 ans. Je dis, ah oui, le temps passe vite. Alors, il m'avait proposé ce verset du livre d'Ésaïe au chapitre 54, verset 1. Verset 2. Le verset qu'ils ont retenu, c'est celui-ci. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets. Et ils ont choisi ce verset-là pour dire, c'est un message pour l'Église. Élargis l'espace de ta tente, c'est-à-dire étends-toi, qu'on déploie les toiles de tes demeures. C'est-à-dire vraiment que tu puisses accueillir plein de monde. Et puis, ne te ménage pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets. Or, ça peut être une image très, très sympa pour l'Église, un encouragement à grandir, à se développer. Et puis, j'ai relu cela, j'ai relu les chapitres qui précèdent, chapitres 52 et 53, d'Ésaïe, et puis le chapitre 55, et je me suis rendu compte, et je leur ai dit, que ce verset-là ne nous est pas adressé. Dans le livre d'Ésaïe, en tout cas, il ne concerne pas directement l'Église, mais il concerne Israël. Et plus précisément, Jérusalem et Juda. Alors, quand on lit cela, on se dit, tiens, c'est pas un message qu'on peut s'approprier en premier lieu sans regarder ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Et j'ai eu la curiosité, ça va faire plaisir à certaines personnes, mais de lire la traduction d'André Chouraqui. André Chouraqui, c'est un théologien qui a retraduit dans l'esprit hébraïque la Bible d'une manière très très précise, en mettant l'accent sur les mots qui en hébreu sont importants. Alors, je vais vous lire les 10 premiers versets de la traduction d'André Chouraqui. Ça va vous perdre. Hein. Je vais en perdre quelques-uns en cours de route, c'est pas grave. Hein. J'essaierai de vous récupérer après. D'accord ? Voici la traduction d'André Chouraqui et je demanderai aux femmes d'écouter plus attentivement parce que c'est un passage qui présente des caractéristiques de Dieu qui sont plus particulièrement féminines. Et je demanderai aux hommes de se poser la question, c'est, comme on le dit, est-ce que si Dieu se présente avec ses caractéristiques féminines, je n'ai pas moi aussi à développer des caractéristiques que l'homme a parfois tendance à ignorer. Dans le chapitre 54, verset 1, ce message adressé à Jérusalem et à Juda, qui s'étaient éloignés de Dieu et qui donc ne manifestaient pas les fruits que Dieu attendait d'eux au fil des siècles passés. Triomphe stérile, toi qui n'as pas enfanté, éclate en cri de triomphe et jubile. Hennie, toi qui n'as pas eu de spasme. Il n'y a que les femmes qui peuvent comprendre cela. Alors, je ne sais pas si dans la salle de travail, c'est des hennissements qu'on entend, mais elles savent ce que c'est que toi qui n'as pas eu de spasme. Oui, les fils de la désolée sont plus nombreux que les fils de la mariée, dit Yahvé Adonai. Élargis le lieu de ta tente, les tentures de tes demeures sont tendues. N'épargne rien, allonge tes cordées, renforce tes piquets. Oui, de droite et de gauche, tu fais brèche. Ta semence déshérite les nations. Il repeuple les villes désolées. Ne frémis pas. Non, tu ne seras pas blême. Sois sans opprobre quand tu ne seras pas atterré. Oui, tu oublieras le blêmissement de ta jeunesse. Tu ne mémoriseras plus l'outrage de ton veuvage. Oui. Ton époux, ton auteur, Yahvé Adonai Sebaoth son nom, ton racheteur, le sacré d'Israël, est crié l'Élohim de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée au souffle de la peine, Yahvé Adonai t'a appelé. La femme de la jeunesse serait-elle rejetée, dit ton Élohim. Je te chéris. Un petit instant, je t'avais abandonné. À grande matrice, je te groupe. Waouh. Matrice, en hébreu, c'est la compassion de Dieu et c'est le mot qui sert à décrire les organes féminins qui portent l'enfant. À grande matrice, je te groupe. Dans une crue d'écume, j'ai voilé un instant mes faces devant toi, en chérissement de pérennité. « Je te matricie, dit ton racheteur, Yahvé Adonai. Oui, pour moi, comme au jour de Noé, quand j'ai juré de ne plus faire passer encore les eaux de Noé sur terre, ainsi je jure de ne plus écumer contre toi, de ne plus te menacer. Oui, les montagnes se retireront, les collines chancelleront. Mon chérissement pour toi ne se retirera pas, mon pacte de paix ne chancellera pas, dit celui qui te matricie, Yahvé Adonai. » C'est un texte qui, pour nous, dans notre connaissance et notre langage, nous échappe un peu. Mais dans ce texte de Ésaïe 54, Dieu, à plusieurs reprises, se présente comme celui qui porte à la fois son peuple et ses enfants comme une femme porte et enfante. Dieu est celui qui me matricie, qui me met au monde, qui me fait rentrer dans la vie. J'avais beaucoup d'étonnement en relisant ce texte avec la traduction d'André Chouraqui. Alors pourquoi est-ce que je dis et je souligne que ce texte est d'abord un texte qui s'adresse à Israël et à Juda, Juda et Jérusalem? Eh bien, tout simplement parce que si vous relisez les psaumes, les chapitre qui précède ce texte que nous venons de lire, le chapitre 52 et le chapitre 53 sont des textes qui parlent du Messie annoncé pour Israël. Ni plus ni moins. Ça veut dire que quand Dieu dit « triomphe stérile », il s'adresse à Juda à Jérusalem qui a été appelé à porter la parole et à annoncer la venue du Messie. Et qui n'a pas respecté et qui n'est pas rentré dans son appel. C'est pour ça que ça commence par triomphe stérile. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, tu as été stérile, tu n'as pas porté l'espérance que j'avais mise en toi. Mais triomphe parce que ça vient. Et c'est des textes 52, 53, 54, 55 qui disent le Messie est en route. Alors, quand je leur disais, c'est bien d'avoir choisi ce verset, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets. C'est un message qu'on entend beaucoup dans l'Église en ce moment, à savoir que la mission de l'Église serait de grandir, de se développer, de faire entrer le plus de monde possible dans l'Église. Et je leur disais, je ne suis pas sûr que ce soit la mission de l'Église. Il y a 3-4 semaines, un homme qui est ancien, responsable d'une église de la région parisienne, me téléphonait pour me dire « J'assistais à une réunion et on m'a expliqué que maintenant la mission de l'église, c'est de faire rentrer le plus de monde dans l'église. » Et il était en larmes parce qu'il se dit je n'avais pas... cette pensée-là, pour moi, et il me semblait que la mission de l'Église, c'était d'annoncer Jésus-Christ. C'était d'annoncer la bonne nouvelle qui permet à chacun d'entrer dans la vie éternelle. Et on entend beaucoup en ce moment que l'aspect missionnel de l'Église, ce serait de faire rentrer. Mais est-ce que c'est cela, la mission de l'Église ? Est-ce que ce n'est pas stérile que de vouloir... faire grandir. Alors évidemment, c'est génial. Élargis l'espace de ta tente. Allez, fais rentrer. Repousse les murs. On vient juste d'acheter les locaux, on va tout casser et on va repousser les murs. Triomphe stérile. Parce que voici celui qui est là arrive. Le Messie. Messie, en hébreu, ça donne Christ en grec. Il est là. Et la mission de l'Église, en fait, n'est pas autre que celle d'Israël en son temps. Et le message central de ce texte, ce serait l'ignorer si nous ne lisions pas le chapitre 52, 53 et celui qui suit derrière. Élargir l'espace de l'attente ne peut se faire, se vivre... qu'à condition que le centre de notre espace soit le Messie annoncé à Israël, le Christ révélé au monde. Est-ce que vous voulez élargir l'espace de l'Église ? Est-ce que vous voulez élargir l'espace de vos vies ? Alors je vous dis, ça ne peut pas s'élargir, je ne peux pas m'épanouir, je ne peux pas développer ce que je suis si le centre, ce n'est pas Jésus-Christ. Alors, quand Ésaïe parle et s'adresse à Juda à Jérusalem, il dit « Élargis l'espace de ta tente ». Pour Israël, la tente, c'est quelque chose de très concret. C'est ça. C'est cela, ce que vous avez en photo et qui restera tout le temps de cet échange, ce partage. La tente, c'est la tente, le tabernacle, c'est-à-dire ce lieu de culte portatif qui se déplaçait avec Israël et qu'Israël suivait. C'était pas l'inverse, ça suivait pas Israël, Dieu se déplaçait dans le désert et eux, ils suivaient le tabernacle qui était remonté à chaque fois. Quand Ésaïe parle d'élargir l'espace de sa tente, il utilise une image qui est celle du tabernacle, cette tente portative. Cherchez pas, il n'y a pas la marque Quechua dessus. Alors, cette annonce faite à Israël, c'est de lui dire « Tu as été stérile parce que ta mission, c'était d'annoncer mon salut, ma vie, au monde qui t'entoure. » Et jusqu'à présent, eh bien, tu es passé à côté. Parfois, on peut se demander si l'Église aujourd'hui, si moi, en tant que chrétien, je ne passe pas à côté de la mission qui m'est donné, à savoir annoncer le Christ. Élargir l'espace des attentes, ça renvoie à ce tabernacle. Le tabernacle, ça a aussi un autre nom, c'est la tente de la rencontre. C'est là où Dieu rencontrait les hommes, et notamment les sacrificateurs, pour dire « Je suis un Dieu qui peut se rencontrer maintenant, mais pas n'importe comment. » Cet ancien qui me téléphonait était en larmes au téléphone parce qu'il disait « Mais j'ai entendu dire que maintenant, la mission de l'Église, c'est d'ouvrir tout grand les portes et de faire rentrer tout le monde. » Tout le monde sans être clair dans comment est-ce qu'on rencontre Dieu. Et vous allez voir qu'en parlant d'élargir l'espace de ses tentes, de rencontrer Dieu ne se fait pas n'importe comment. Oh, ce n'est pas une question de loi, c'est une question de foi. Et de foi en des choses bien claires et bien précises. Le tabernacle, c'est Dieu qui, au chapitre 25, 26, 27 de l'Exode, en a fait les plans, en disant « tu feras de telle manière ». Tous les détails ont été posés par Dieu. Et cette tente-là est entourée, la tente principale, le tabernacle, avec le saint et le lieu très saint, qui sont à l'intérieur de cette tente à l'intérieur, est entourée de poteaux avec un courtil de lin tissé qui fait à peu près 2,50 m et des portes pour entrer dans le lieu saint. Ensuite, on traverse la cour, on rentre dans le tabernacle, mais pas n'importe qui, les sacrificateurs, en deux parties, le lieu saint, le saint et le très saint. Dans le saint, vous avez la menorah, les chandeliers, la table des pains de proposition. Enfin, c'est un peu compliqué, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Puis dans la deuxième partie, vous avez l'Arche de l'Alliance qui a vu Indiana Jones et l'Arche perdue. Ça vous donne ça vous rappelle des souvenirs. L'Arche de l'Alliance, c'est celle qui était dans la deuxième partie de cette tente-là. Donc, le lieu, le parvis, c'est-à-dire à l'intérieur de la tente, ça s'appelle le lieu saint. Ensuite, vous avez le saint qui est la première partie de la tente, et le lieu très saint. Alors, quand on parle de l'Église actuellement, ce pasteur, enfin ce responsable d'Église disait, mais j'ai entendu quelqu'un qui disait, il faut ouvrir les portes toutes grandes, et puis l'Église, je dirais, accueille tout le monde, et c'est vrai. Et puis, c'est au contact des chrétiens que les choses vont s'opérer et qu'il peut y avoir des changements. La formule qui a été adoptée au cours de cette réunion, c'est laisser rentrer les herbes folles et au contact des chrétiens, ils se transformeront. C'était surprenant comme théorie. À mon contact, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se transforment. À mon contact. Vous, je ne sais pas, vous êtes peut-être tellement saint que ça peut se produire, mais... Moi, c'est au contact de Jésus-Christ que les hommes et les femmes se transforment, pas à mon contact. Alors, ce tabernacle, il a des caractéristiques. La première caractéristique, c'est que vous avez vu cet entourage, 56 poteaux avec des socles, une toile de lin, et c'est ça qui délimite le lieu saint, et je dis bien le lieu saint, c'est-à-dire l'espace où on rentre dans la présence de Dieu, du camp. Le camp, c'est ce qui est autour. Vous voyez, par exemple, ici, on voit des maisons, parce que c'est quelque chose qui a été fabriqué pour reproduire, mais le camp d'Israël était autour de cela. Et le camp, ça représentait le monde qui regarde Dieu de loin, mais qui n'est pas dans sa présence. Le camp, même d'Israël, c'était une représentation du monde. Quelle séparation quand même. Une toile de lin de 2,50 m. Je suis allé au match de football il y a 15 jours. Il y a 15 jours, c'est ça ? 3 semaines. Mon fils avait dit, écoute, ton petit-fils a son anniversaire, donc... j'aimerais qu'on aille tous les trois, lui, moi et toi, à Paris pour voir le match de football PSG-Lorient. J'ai dit, pourquoi m'infliger un supplice de cette nature ? PSG-Lorient. contre Troyes encore, ou Angers, ok, mais contre le PSG. Mais j'ai dit, pour mon petit-fils, j'y vais. Et je suis allé le dimanche au Parc des Princes. Et il y avait un quart de virage qui était dédié aux supporters lorientais. Et tout le restant, c'était des Parisiens. Et nous, on était avec les Parisiens. Donc j'avais pensé à un moment mettre une écharpe de Lorient. Puis je me suis dit, soyons raisonnables. Donc je me suis fait discret avec mon petit-fils et mon fils. Et j'étais à 60 mètres du virage où il y avait, ouais, je veux dire, 250-300 supporters lorientais. Et c'est là que j'ai constaté que les Parisiens, en tout cas les supporters, manquent totalement de foi. Vous savez pourquoi ? Parce qu'entre eux, qui devaient être plusieurs milliers, et les 250 supporters lorientais, ils n'avaient pas mis des séparations en lin, des poteaux avec des toiles en tissu pour les séparer. Il y avait des grilles en fer de au moins 4 mètres de haut, recourbées pour ne pas passer par-dessus. C'est un manque total de foi. Regardez ici, entre le monde et la présence de Dieu, c'est des tissus qui séparent. Hein ? Les Parisiens manquent totalement de foi, ou alors ils n'ont pas confiance, je ne sais pas. D'ailleurs, ils manquent tellement de foi qu'on leur a mis 3 à 1. Mon petit-fils était effondré, pas moi, mais bon, j'ai eu le triomphe modeste parce qu'il était vraiment en larmes. Mais donc voilà, des choses, des séparations dures. Ici, c'est juste du tissu. Et en fait, ce tissu, dans le tabernacle, il représente quelque chose qui sépare ce qui est à Dieu de ce qui ne l'est pas, du dehors. C'est la foi. La foi. Cette barrière de lin, elle semble fragile. Elle représente la foi tout aussi fragile qui nous sépare du monde. Élargir l'espace de notre tente, l'espace du royaume de Dieu, c'est la foi qui le délimite. Dans ma vie comme dans l'Église, dans le peuple et dans le royaume de Dieu. La foi de l'extérieur, dans le camp, on regarde ça, on se dit, c'est fragile la foi de ces croyants. Croire en Dieu, ce n'est pas aussi solide que de croire dans les choses de ce monde, dans ma raison, dans mon intelligence. Comment peuvent-ils avoir cette chose aussi fragile qui les anime, qui les met en mouvement, qui les mettrait en relation avec Dieu ? Parce que l'espace du tabernacle, c'est bien la tente de la rencontre, c'est-à-dire l'espace où je peux rencontrer Dieu. Et ce qui me sépare, c'est du monde, de la relation et de la communion avec Dieu, c'est juste la foi. Comment est-elle ta foi ce matin ? Peut-être que tu dis, ouais, c'est encore plus fragile qu'une barrière de lin. Et pourtant, cette barrière de lin, elle repose sur des socles. Il y a 56 socles qui représentent, dans l'ensemble, tous les poteaux là sont sur des socles. À votre avis, ça pèse combien ces socles ? Allez, je vais faire travailler Ivan. À ton avis, tous les socles de ces poteaux, ça représente combien ? Allez, dis, il y a 10 kilos près, je t'accorde. Tous réunis, 56 socles. Allez, vas-y, lance-toi. 100 kilos. Ouais, alors j'ai demandé à un pro du bâtiment. Pascal, combien peuvent peser les 56? Il a dit 100 kilos, à ton avis. Combien? Qui a dit 700? 700 pour Christian. Pascal? Plus, moins? Une tonne. Alors, 2 tonnes pour Michel. Qui dit plus? Lui, c'est le juste prix, là. Combien de le poids des socles? 4 tonnes 450. 4480 kilos pour soutenir le voile qui représente la foi. Ce sont des socles en cuivre. Ça a une particularité, ces socles, c'est que le cuivre, c'est tout ce qui va constituer les objets à l'intérieur du camp et qui va soutenir la foi, le voile. Et le cuivre, quand vous lisez Airain dans cette description au chapitre 27, notamment de l'Exode, c'est pas de l'airain, c'est vraiment du cuivre. Et le cuivre, en termes symboliques, c'est toujours une représentation de ce qui a été justifié. pour être présent à l'intérieur du lieu saint, on doit être justifié. Il n'y a pas possibilité d'avoir la foi si je ne suis pas justifié par Dieu. Dans le temps de l'Ancienne Alliance, il fallait tuer un animal ou des animaux. Aujourd'hui, pour être juste aux yeux de Dieu, pour pouvoir dire à Dieu « mon Père », il faut que l'œuvre de la croix soit accomplie pour moi, que je croie que Christ est mort sur la croix. Alors, je suis justifié et tous les objets à l'intérieur du lieu saint sont tous en cuivre, en airain dans nos traductions. Est-ce que tu es justifié aujourd'hui ? Est-ce que tu peux dire dans ton cœur ce matin, je suis juste aux yeux de Dieu parce que Christ est mort pour moi, parce qu'il a accompli cette œuvre-là. Alors, j'ai fait le calcul, 4480 kilos pour tous ces plots, ces socles qui portent la foi. Chaque socle, si vous divisez 56 poteaux, 4480 par 56, je ne veux pas vous demander, ça fait 80 kilos par socle. 80 kilos, c'est le poids de l'homme justifié. Je suis quasiment à ce poids-là. Je monte sur ma balance et je me dis, tiens, c'est mon poids. Bon, j'ai un petit surplus, mais j'ai les 80 kilos. Vous, je ne sais pas. Quel est le poids de votre justification et du salut dans votre vie? Est-ce que c'est quelque chose d'aléatoire, de léger? J'entends beaucoup parler du fait, comme je disais tout à l'heure, que pour être faire partie de l'Église, du corps de Christ, je ne parle pas de cet espace-là, mais de l'Église de Christ, il suffit juste de rentrer. Soyons faciles, rendons les choses faciles. Non, pour rentrer et être justifié, il faut accepter que le sacrifice de Christ soit valable pour moi. Pour les Juifs, il fallait amener un taureau, un mouton, un bélier, que sais-je. Mais ça coûtait la mort pour que je devienne juste, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Pour se présenter devant Dieu, il n'y avait pas d'autre alternative. Aujourd'hui, ces choses qui étaient l'ombre des choses à venir, dit l'apôtre Paul, c'était l'ombre de ce que Jésus ferait. Il est mort une fois pour toutes. Lisez l'Épître aux Hébreux, une fois pour toutes. Est-ce que cette justification, elle sert de base, de fondement à ma foi? Et c'est cette foi-là qui me sépare du monde qui est sans Dieu, de l'espace où l'on peut rencontrer Dieu. Ah ouais, tiens, c'est ça, vous savez comment on les appelle? Non, certainement pas en hébreu. Ces socles, ça s'appelle des édones. Édones. Et en hébreu, ça dit tout simplement des forces. Des forces. On me dirait, ça nous fait une belle jambe. Mais n'empêche que pour que la foi sépare l'espace de la rencontre du monde, il faut que ces forces de 80 kilos, de 4480 kilos tout autour, soient présentes. Ces forces-là. On me dirait, oui, mais bon, c'est une belle image. Oui, sauf que Edon, en hébreu, ça a donné un autre nom que vous avez entendu à plusieurs reprises dans ma lecture. Edon, c'est la même racine que Adonai. C'est-à-dire que ce qui sert de socle à la foi, c'est une proclamation. Adonai, ça veut dire le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur de toute la terre. Mon Seigneur et mon Dieu. Ça veut dire que pour la foi, que la foi soit présente dans ma vie, il faut que la force qu'il y a en moi proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Il est mon Sauveur. Et il est mon Seigneur. Est-ce que c'est cette force-là qui est là dans ta vie? Ou est-ce que c'est, je dirais, une adhésion, une carte de membre, j'ai payé un prix? Est-ce que c'est cela, la foi qui me... Est-ce que je suis un édon, c'est-à-dire un socle justifié qui proclame aujourd'hui que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur? Parce que si ce n'est pas cette force-là qui est en moi, comme le dit l'apôtre Paul, le moindre vent peut me faire m'emporter à tout vent de doctrine. Et à l'heure actuelle, je peux vous assurer que j'ai passé quelques mois l'année dernière à sonder l'écriture pour me battre contre des doctrines qui sont en train de rentrer dans les églises. Et on en parlait à Istres la semaine dernière. Alors que le fondement, il est là, uniquement là. Est-ce que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur? Est-ce que j'ai ce poids-là qui soutient ma foi? Parce que si ce n'est pas cela, ma proclamation, mon adhésion, alors je ne peux que être emporté. Et dans le tabernacle, pour rentrer dans le lieu saint, et c'est bien le lieu saint, c'est-à-dire qu'on confond souvent les choses, on dit, tiens, le lieu saint, c'est la première partie de la tente. Non, c'est le saint. Le lieu saint, c'est le parvis, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur de cet espace-là. Pour entrer dans le lieu saint, moi j'aime bien, parce qu'au chapitre 27, lorsque Dieu décrit la construction du parvis, du tabernacle, etc., il dit, hein, je vais vous le faire en traduction commune, il dit, tu rentreras dans le lieu saint par la porte de l'est, puis en face tu trouveras la première porte du tabernacle située aussi à l'est, et à l'intérieur du tabernacle tu trouveras l'entrée du lieu très saint située à l'est. Dans une bonne traduction, qui pour moi est la meilleure des meilleures, si tu veux rentrer dans le lieu saint, tu prendras la porte de l'Orient. Oui, je suis désolé, Elisabeth, c'est pas Rieux, c'est pas Redon, c'est tu prendras la porte de l'Orient. Puis, si tu veux rentrer et rencontrer Dieu, tu prendras dans le tabernacle la porte qui est située à l'Orient. Et puis, à l'intérieur, tu rentres. C'est la traduction. L'Est et l'Orient, c'est la même chose. Beaucoup de vos Bibles disent cela. Moi, j'aime beaucoup cette traduction. Il y avait un pasteur indien qui disait dans un conseil, dans la Bible, il n'y a que deux églises apostoliques qui sont citées, c'est l'Inde et l'Orient. Moi, ça me convenait. Je dis, changeons rien. C'est là où le soleil se lève. Est-ce que je peux rentrer dans la présence de Dieu? Et alors, cette porte, là aussi, c'est comme le courtil de lin très léger, 2,50 m, du lin tressé très fortement, mais du lin, une toile. Eh bien, la porte, c'était un tissu avec trois couleurs, du bleu, du pourpre et du cramoisi. Et le bleu, et vous le retrouvez dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, verset 11. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et en fait, il parle de ce Dieu qui est descendu du ciel, là où Dieu trône. Il est venu vers nous. Le bleu, la couleur bleue, c'est toujours la couleur du royaume céleste. C'est-à-dire que pour rentrer dans le lieu saint, il faut croire et accepter que Christ est descendu du ciel. Qu'il est Fils de Dieu qui règne de toute éternité et qu'il est venu jusqu'à nous. Ce n'est pas simplement un homme, comme on le voit dans certaines religions. Ce n'est pas simplement un être remarquable. C'est le Fils de Dieu, celui qui est dans le ciel et qui est venu vers moi. Est-ce que j'ai cette révélation-là qui me permet d'aller à la rencontre du Père, à la rencontre de Dieu? Est-ce que j'ai cette conviction que Christ, sa nature divine et céleste, sont venus vers moi? Au psaume 119, il est dit « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. L'œuvre de Christ est sans limite. » Elle est au plus haut point parfaite et suffisante. Quand il est dit, il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, c'est-à-dire l'espace où Dieu règne, ce mot en hébreu, ça veut bien dire une œuvre céleste parfaite au plus haut point. Et il est venu vers nous. Il est venu vers moi. Quel mérite avais-je? Parfois, quand je me regarde dans la glace, je me dis, « Waouh, t'es pas mal. » Bon, l'œuvre fait son, le temps fait son œuvre, mais bon. Mais à côté de ce qu'est Dieu, ce qu'est Christ, il était assis dans le royaume de Dieu. Il a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Et pourtant, il a quitté cet espace parfait pour venir vers moi. et pour me racheter. Le rideau qui permet de rentrer dans le lieu saint, c'est d'abord la proclamation que Christ est de nature divine. Quand vous regardez les Bibles des témoins de Jéhovah, il y a un petit dé quand il est dit « Et la parole était Dieu ». Ils ne mettent pas un dé majuscule, tout simplement parce qu'il y a un refus de croire en la divinité de Christ. Mais si Christ n'est pas Dieu, alors son salut n'a que très peu d'impact. Il a bien fallu que celui qui est parfait, Dieu seul est parfait, vienne pour payer le prix. La deuxième couleur qu'il y a sur ce rideau d'entrée et qu'on retrouvera sur les trois rideaux de séparation, bleu, pourpre. Eh bien, le pourpre dans la Bible, c'est la couleur royale. Et c'est Christ et son œuvre qui sont de nature royale. Est-ce qu'il est mon roi ? Alors, on dit il est le roi d'Israël, il n'est pas le roi de l'Église. Mais est-ce que sa personne, ce qu'il est profondément, c'est celui qui est mon Seigneur, mon roi ? Est-ce qu'il a toute autorité sur ma vie ? Ouais, juste quelques pièces dans ma maison. Mais il y a des pièces qui sont à moi. Là, ça m'appartient et il ne rentre pas. Restons, oui, oui, c'est à toi, Seigneur. Mais est-ce que je peux lui dire, Seigneur, dans ma vie, tu es vraiment le Seigneur des Seigneurs. Élargis l'espace de tes tentes. C'est aussi d'accepter que la Seigneurie de Christ rentre dans mon existence. Puis la troisième couleur sur ces trois rideaux, c'est le cramoisi. Un cramoisi, ça vient d'un, c'est une couleur rouge, rouge vermillon. Et en fait, cette couleur-là, elle vient de, dans l'Antiquité, d'une chenille. Cette chenille, c'est, on appelle ça le Coccus ilicis. C'est une chenille qui, en Palestine, se posait sur des chênes bien particuliers qui s'appelaient des kermes. K-E-R-M-E-S. Et ces chênes-là, en fait, ces chenilles s'installaient toujours dessus. Et en fait, une fois qu'une femelle allait pour y pondre, elle se déposait sur le tronc du chêne et puis elle s'y fixait définitivement. C'est-à-dire que quelque part, elle s'y fixait pour y pondre ses œufs et y mourir. Et ce sont ces chenilles, ces animaux qui étaient pris, écrasés pour faire cette couleur du cramoisi dans l'Antiquité. Et quand cette femelle d'une espèce écarlate s'accrochait, elle se sacrifiait pour ses petits. Et en fait, ensuite, le chêne prenait la couleur de cet animal qui mourait pour donner naissance. Et c'est comme cela que le cramoisi a été utilisé. Et c'est une image parfaite de celui qui est monté sur le bois à Golgotha. Qui a donné sa vie afin que nous ayons la vie pour l'éternité. Il n'y a pas d'entrée dans le lieu saint si on ne passe pas par ces trois révélations. Christ est le Fils de Dieu venu du ciel pour moi. Christ est celui qui règne et qui a toute autorité. Christ est celui qui s'est donné sur le bois à Golgotha et qui a fait couler son sang afin que j'aie la vie éternelle, le pardon de mes péchés, et que je vive pour l'éternité. Élargis l'espace de ta tente. Alors, est-ce qu'on a envie d'élargir l'espace de sa tente ? J'ai fait une expérience avec les enfants. Et j'avais demandé à la fille d'Aurore, Eden, de prendre un balai, un manche à balai, et puis de le poser avec le manche à balai à hauteur de sa tête. Alors Eden, elle n'est pas grande, elle est... Je ne dirai pas sa hauteur, sinon si elle écoute cette prédication, elle va se fâcher. Mais c'était une jeune femme, une jeune fille à 16 ans et demi qui est extraordinaire, avec laquelle on a eu le privilège de pouvoir parler pendant une heure et demie en tête à tête, en attendant ses parents. Et une jeune fille de 16 ans et demi qui a une foi extraordinaire. Elle était avec vous à multitude. Et je lui dis, tu prends un balai. Et on va essayer de construire une tente dans l'église, pendant le culte. Et j'avais juste, c'était symbolique, attaché 4 pelotes de laine à partir du balai. Donc elle était à 1m60, 1m65 peut-être. Et puis, il y avait quatre à miel qui tiraient des fils à 1,50 m de distance du balai. C'est la tente. Élargis l'espace de ta tente. Alors, j'ai demandé aux jeunes qui tenaient les pelotes de laine de reculer de deux pas. Et je demandais à l'assemblée, mais alors, est-ce que vous pensez que là, on a bien élargi l'espace de la tente? Bon, elle était toujours à 1,65 m, mais on avait tiré sur les côtés. On élargit. Bah, on ne peut pas en mettre beaucoup plus dessous. Hein. Alors j'ai dit, bah, reculez de deux pas. Et j'ai dit, alors, et maintenant, bah, on a élargi, mais ceux qui sont sur les bords, ils sont à quatre pattes, hein, avec un mât à 1,60 m. Alors je dis, reculez encore de deux pas. Et puis là, ils ont collé les murs. Mais en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que pour élargir l'espace de la tente, affermir des cordages, il y a une condition. C'est qu'on ne peut pas élargir l'espace de cette tente. Et c'est ce que je reproche peut-être à certains messages aujourd'hui. On se dit, transformons les églises pour qu'il y ait le plus de monde. Alors, je sais qu'il y a un projet d'église qui a vu le jour, où il y a une garderie, il y a une salle de sport, il y a un restaurant. Alors, on élargit. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quelle est la révélation de Christ? Alors quand je disais, mais reculez, élargissez, ouais. Et j'ai dit à l'église, mais alors, qu'est-ce qui permettrait vraiment, quand on élargit l'espace de la tente, de faire rentrer beaucoup plus de personnes? Et à votre avis, c'est quoi? Allez, Corinne, dis-le. Il faut élever le mât. C'est-à-dire qu'on ne peut pas élargir l'espace de la tente si on ne prend pas soin de donner de la hauteur. Et ça dit quelque chose, élargir l'espace de la tente, c'est pas s'étendre, mais c'est d'abord cultiver, soit en tant qu'église, soit en tant que croyant, sa relation avec Dieu vers le haut. Si on élève sa relation, sa proximité, sa communion avec Dieu en hauteur, alors il est possible d'élargir l'espace de nos tentes personnelles et l'espace de l'Église. Est-ce que nous sommes prêts à prendre ce temps pour élargir nos tentes? Vous savez que ce verset qui a été lu, il dit ceci, élargis l'espace de ta tente. Et là, il fait référence à la tente de rencontre. Mais après, il dit, déploie l'étoile de tes demeures. C'est là où tu habites, toi. Donc, il y a au moins deux espaces. L'espace collectif du peuple de Dieu, de l'Église ou d'Israël, et l'espace individuel. Alors, parfois, on peut avoir une Église qui peut prendre de la hauteur, mais à l'intérieur, avoir des toutes petites tentes de demeure qu'on ne fait pas grandir, parce que nos vies sont quelque part restreinte. C'est Paul qui disait aux Corinthiens, notre bouche s'est ouverte pour vous, notre cœur s'est montré large. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. En contrepartie, je vous parle comme à mes enfants, montrez-vous large aussi, c'est-à-dire développez votre espace personnel. Peu importe d'avoir un bon pasteur ou un mauvais pasteur, ou de bons anciens, ou des mauvais anciens, ou des bons frères, ou des... J'allais dire des belles sœurs, non. Ni des bonnes sœurs. Mais si on a un entourage qui est de qualité, si moi, je ne cultive pas ma foi tellement fragile qui me sépare du monde, mais si je n'ai pas cette démarche-là de vouloir cultiver ma hauteur avec Dieu, alors l'espace de ma tente sera rikiki, restreint. Qui est-ce que je peux accueillir en dessous? Il y avait dans l'arche, dans la tente de la rencontre, le lieu saint, le saint et le très saint. Dans le très saint, il y avait un seul objet, l'arche de l'Alliance. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait trois objets. Et je me disais, c'est étrange cette arche de l'Alliance. C'est vrai qu'elle a été recherchée et qu'aujourd'hui encore, il y a des fouilles archéologiques qui se font en dessous de la mosquée qui a remplacé le temple d'Israël. Mais ça se fait avec beaucoup de précautions parce que les musulmans ne sont pas très très chauds. Et puis les juifs non plus, bizarrement. Mais il y a eu des recherches. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle n'est pas là? Etc. Toujours est-il que c'est un objet, je dirais, qui reste dans la mémoire collective comme quelque chose qui parle de Dieu. Dedans, il y avait les tables de la loi. C'est-à-dire que les Juifs se disaient, là où on ne va jamais qu'une fois par an, et c'est le souverain sacrificateur qui met quelques gouttes de sang d'un animal sur le couvercle de l'arche, il n'y a qu'une seule personne, une fois par an, eh bien, à l'intérieur, tout le monde savait ce qu'il y avait. Il y avait l'étape de la loi, c'est-à-dire un Dieu qui parle. Il me parle, il parle à Israël. Et j'ai envie de dire, est-ce que cette arche de l'Alliance ou son symbole, est-ce que c'est présent dans ta vie et dans ma vie? Est-ce que Dieu est un Dieu qui me parle? Est-ce que sa parole, c'est quelque chose que je cultive? Ou bien, c'est beaucoup trop épais. On ne pourrait pas avoir une version synthétique, l'essentiel? Est-ce que Dieu est un Dieu qui me parle au travers de sa parole? Le deuxième objet, c'était le vase qui contenait de la manne, c'est-à-dire la nourriture que les Juifs recevaient tous les jours dans le désert. Et cela, c'était un rappel de Dieu qui disait, moi je suis un Dieu de grâce. Est-ce que Dieu est un Dieu de grâce tous les jours avec moi? Et le dernier objet, c'était le bâton d'Aaron. Dans un moment de révolte, tout Israël s'était ligué contre Moïse et Aaron. Et il avait déposé un bâton qui, en une nuit, a fleuri et a porté du fruit. Pour dire, et le bâton, c'est le symbole de l'autorité. Est-ce que Dieu est vraiment cette autorité pour ma vie? Alors, je voulais vous dire, est-ce que je souhaite que vous élargissiez l'espace de vos tentes intérieures? Je vous le souhaite. J'ai entendu une prière qui disait ce matin, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Est-ce que je souhaite que cela se vive dans ma vie à moi? Oui, je le souhaite. Est-ce que je suis prêt à vivre tout ce que cela signifie entre le chapitre 52, 53, 54, 55? 55, ça commence par le salut offert à tous. 52 et 53, c'est cette question. Qui a cru ce qui nous a été annoncé? Est-ce que tu crois? Est-ce que je crois ce qui m'est annoncé au sujet de Jésus? Alors, je sais que nous avons les uns et les autres, des épreuves, des difficultés, des moments difficiles. Dimanche soir, nous avons un moment de rencontre avec l'équipe pastorale de Istres. C'est une église qui a traversé des drames, des souffrances qui sont incompréhensibles. Et on a commencé ce temps de table ronde avec l'équipe et ils ont évoqué ces souffrances. Décès d'un enfant. Décès d'un membre de l'Église, perte d'un tel et un tel, des choses très douloureuses. Et il y a un frère qui a dit, qui revenait de plusieurs mois d'opérations militaires, il disait, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cela? Et il y en a un autre qui a répondu, il disait, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi on a traversé cela. La question, c'est peut-être moins de se dire pourquoi, que pour quoi? Pour quoi? Et de trouver en Dieu la réponse des moments difficiles pour pouvoir se dire, ben Seigneur, maintenant, je sais que le pourquoi, c'est en tout cas pour être avec toi, pour vivre avec toi, pour profiter de ta présence et de ta vie. Alors je nous invite à élargir l'espace de nos tentes pour découvrir pour quoi Dieu nous appelle. Amen.